Hein, il est 13h sur Europe 1. Place au journal avec Raphaël Chapira.
La bonne nouvelle pour les salariés de l'usine Sodi Medical, près de Troyes, la cour d'appel de Reims oblige le patron allemand à relocaliser l'activité. C'est une première, on y reviendra dès le début de ce journal. La fin des dépassements d'honoraires abusifs des médecins spécialistes d'ici la fin de l'année, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement après le Conseil des ministres. Vous entendrez la porte-parole. La crise des vocations dans l'éducation nationale, il manquera des enseignants dès la rentrée prochaine. Nous ferons le point pour savoir où. Et dans quelle matière? Les éboueurs du marché de Rungis reconduisent leur grève. Les négociations ont échoué ce matin. Pendant ce temps-là, les déchets s'accumulent. Et les vacances, saison des cambriolages. Nous verrons que les voisins s'organisent de mieux en mieux pour déjouer les codes des cambrioleurs. Enfin, le Tour de France. Et alors que le coureur de Cofidis, Rémi Di Gregorio, est toujours en garde à vue, on attaque sur le terrain la 10e étape dans les Alpes. La Bourse de Paris et le CAC est en baisse de 0,17% à 3177 points. Europe 1. Du nouveau donc pour les salariés de Sodi Medical. La cour d'appel de Reims a rendu sa décision ce matin. Les employés qui pointaient depuis plusieurs mois dans leur usine de Troyes sans être payés vont enfin toucher leur salaire. Le groupe allemand propriétaire est condamné à reverser 10 mois de paye aux 52 salariés. Et c'est une première, comme je vous le disais dans les titres, et à relocaliser son activité. Lors d'Autriche, vous étiez avec les employés ce matin quand ils ont appris la bonne nouvelle.
Oui, ils s'étaient tous réunis dans la cantine de l'usine et c'est leur avocat qui leur a annoncé la nouvelle par téléphone.
Nous sommes très heureuses parce que depuis 10 mois sans salaire, je peux vous dire que là, ça nous met du baume au cœur.
Vous pleurez?
Ou de joie? Avec tout ce qui nous tombe, les factures impayées, tout ça, ça va nous faire du bien, du baume au cœur, savoir quand même qu'au moins un peu de justice est avec nous encore. Ça fait du bien.
D'autres salariés avaient dû s'endetter ces derniers mois et c'est donc le soulagement pour tous, pour ces 52 employés. Et en plus des salaires, le groupe allemand propriétaire de Sodi Medical est condamné à redonner leur travail aux salariés, donc en plus de ces 10 mois de salaire. À l'usine, donc, le travail devrait reprendre dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Chaque salarié va retrouver son poste, sa place. Et déjà, ils viennent de ressortir leur blouse blanche prêts à retravailler.
Lors d'Autriche. Les abus dans les cabinets de médecins spécialistes, le gouvernement promet d'y mettre fin d'ici la fin de cette année. Marisol Touraine a présenté ce matin au Conseil des ministres sa feuille de route sur le sujet. Il faut dire que le problème prend de l'ampleur en France. Selon une étude de la Caisse nationale d'assurance maladie, les dépassements d'honoraires représentent 2,5 milliards d'euros par an et les complémentaires santé n'en prennent qu'un seul tiers en charge. Le gouvernement entamera des négociations à la fin du mois avec les médecins. C'est ce qu'a annoncé la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem.
Le gouvernement est déterminé à mettre un terme d'ici la fin de l'année 2012 aux dépassements abusifs et à renforcer leurs sanctions. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie sera donc invitée, dans le respect de ses compétences, à initier avant la fin du mois de juillet, donc assez rapidement, une négociation avec les représentants des médecins libéraux. Les organismes de complémentaire santé seront associés à cette négociation, comme aux discussions qui se poursuivront. Et à l'automne, si la négociation n'aboutissait pas à des résultats significatifs, sachez que le gouvernement prendrait alors ses responsabilités. En tout cas, nous laissons pour l'instant la négociation se faire, et puis si elle n'aboutit à rien, le gouvernement reprendra la main, l'idée étant de mettre un terme au dépassement d'honoraires abusifs. Mais toute la question justement qui doit être traitée dans la concertation qui s'ouvre, c'est qu'est-ce qu'on entend par abusif? Donc c'est un peu délicat de vous répondre aujourd'hui.
Voilà, Najat Vallaud-Belkacem avec Camille Langlade. Nous allons manquer d'enseignants au collège et au lycée, et ce, dès la rentrée prochaine. Après les résultats au concours du CAPES, il apparaît que 15% des postes n'ont pas été pourvus, Sandrine Landry.
Oui, Raphaël, et en tête des disciplines qui manquent le plus de candidats, il y a les maths. Cette année, un tiers des postes de prof de maths n'ont pas été pourvus. Même chose pour les lettres classiques, l'anglais et l'allemand. Et ce n'est pas nouveau, c'était déjà le cas l'an dernier. Alors pour pallier cette pénurie, le ministère de l'Éducation a prévu de puiser dans les listes complémentaires, c'est-à-dire d'aller chercher des candidats qui ont échoué de peu au concours du CAPES. Ce sera le cas pour 4 disciplines seulement, le sport, les maths, l'anglais et les lettres. Or, il faudra aller bien au-delà, prévient Frédéric Rollet, secrétaire général du Syndicat national des enseignants du second degré.
La solution d'urgence à la rentrée, ce serait d'élargir les listes complémentaires, pas seulement dans les 4 disciplines qui ont été pour l'instant prises par le ministre. Autrement, on va se retrouver en situation d'embaucher sur les postes à l'année ce qu'on appelle les titulaires sur remplacement, qui sont des titulaires, mais qui normalement sont destinés à couvrir les remplacements pendant l'année. Ce qui fait qu'on n'aura plus personne pour effectuer les remplaçants.
Moins de 2 mois avant la rentrée, trouver des solutions s'annonce donc compliqué. Et en pleine période de vacances scolaires, c'est l'ensemble du corps enseignant qui est très inquiet.
Sandrine Andrie. Après la diffusion dimanche soir dans l'émission 7 à 8 de TF1 des enregistrements sonores des négociations entre Mohamed Merah et les policiers du RAID, une information judiciaire vient d'être ouverte pour violation du secret de l'instruction. Cela fait maintenant une semaine que les salariés de la société Coved, qui nettoie le grand marché de Rungis, sont en grève. Ils ont décidé d'arrêter de ramasser les emballages. Et vous nous l'apprenez, Pascal Berthelot, c'est une information Europe 1. Les négociations menées depuis ce matin entre la direction et les syndicats ont échoué, Pascal.
Oui, c'est un échec. 2 heures de négociations pour rien ce matin. À Rungis, entre les éboueurs en grève et la direction de l'entreprise Coved chargée du ramassage des emballages. Écoutez Mohamed Rassif, délégué CGT.
On n'a rien obtenu de tout. Et en réponse, ils amènent des gens extérieurs pour faire notre boulot. Ils essaient de casser la grève.
Vous êtes prêt à continuer ?
Mais bien entendu, 13 licenciements, monsieur, 13 pères de famille. C'est qui va payer le loyer, l'électricité, tout le reste ? Pour eux, ils se font des salaires de 60 000 euros, ceux qui donnent les ordres aujourd'hui, là. Qu'on distribue un petit peu.
Vous l'entendez, le conflit s'est brutalement durci il y a quelques minutes après l'échec de la réunion ce matin. Les éboueurs refusent qu'on supprime leurs 2 jours de repos consécutifs et la direction de son côté maintient sa nouvelle organisation du travail. Résultat, une montagne de déchets, des cartons, des palettes, des cagettes à quelques mètres à peine du pavillon des fruits et légumes. Un spectacle désolant pour Stéphane, restaurateur près de Paris.
Des montagnes de cajots, des fruits pourris, c'est lamentable.
Ça vous gêne dans votre travail ?
Ben oui, c'est toujours gênant. Là, j'emmène un petit Suisse en stage. Il voit ça. En Suisse, il n'y a pas de grève comme ça.
Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous, à Rungis ?
Non, c'est la première fois en 20 ans.
Et pour l'instant, aucune amélioration en vue. Aucun rendez-vous, aucune réunion n'est prévue entre syndicats et direction à Rungis.
Pascal Berthelot en direct du plus grand marché d'Europe. Alors que le comité central d'entreprise de PSA doit se tenir demain matin à Paris, le ministre du Travail Michel Sapin craint de mauvaises nouvelles, c'est ce qu'il a déclaré ce matin. Le groupe PSA a annoncé 6000 suppressions de postes en Europe, dont près de 2000 en France. Vous êtes déjà peut-être parti en vacances ou vous vous apprêtez à partir avec toujours ces mêmes questions. Comment bien protéger sa maison, bien la fermer pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises en rentrant. L'été, c'est bien sûr la saison des cambriolages. Ça fait quelques années maintenant que les voisins s'organisent à tour de rôle pour veiller sur la maison des uns et des autres. Et avec l'expérience, Mathieu Charrier, ils ont mis en place des techniques de plus en plus élaborées.
Et oui, désormais, dans certains quartiers, on voit même des voisins chiffons à la main qui effacent des petits symboles qui sont marqués à la craie sur leur maison. Ces symboles, Catherine les connaît, elle les a découverts sur les murs de son pavillon et ce jour-là, elle a compris qu'elle risquait de se faire cambrioler.
Des croix, des signes, enfin on ne sait pas trop exactement, des dessins comme ça ici et on en avait eu au sol ici. Ça commence à partir de Pâques jusqu'à fin juin. Et généralement, là où il y a un pic, c'est fin mai, début juin.
Et ces signes, c'est en fait une langue secrète entre les cambrioleurs. Par exemple, un petit rond sur un rectangle, ça veut dire que votre maison a déjà été visitée. 5 petits ronds, ça signifie que les cambrioleurs pensent qu'il y a de l'argent liquide dans votre maison. Alors face à tout ça, les voisins s'organisent depuis maintenant plusieurs années. Thierry est à la tête d'un site internet qui met en relation ses voisins vigilants. Et depuis 15 jours, les inscriptions explosent.
C'est hallucinant le nombre de personnes qui s'inscrivent en ce moment. On a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'inscrits par jour. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Hein. Moi, j'ai des personnes au téléphone qui me disent « Je me suis fait cambrioler 4 fois. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vends ma maison. Je ne sais plus quoi faire. » Les cambrioleurs sont très organisés. Si on ne se connaît pas plus entre voisins, ça laisse libre champ aux cambrioleurs pour mettre en place leur technique.
Et ce dispositif de voisins vigilants, ça marche. Dans les communes où il a été mis en place, le nombre de cambriolages a baissé.
Mathieu Charrier. Le Tour de France, on reviendra sur la course dans quelques minutes, mais pour ce qui concerne les affaires, sachez que l'un des 3 hommes interpellés hier pour une affaire présumée de dopage a été remis en liberté. Le coureur de Cofidis, Rémy Di Gregorio, et l'homme de 75 ans présenté comme un naturopathe sont eux toujours en garde à vue. Allez, comme promis, on passe au sport et on va sur la route du Tour.
Avec Europe 1, vivez le 99e Tour de France.
C'est la 10e étape aujourd'hui, la première dans les Alpes avec l'ascension du Grand Colombier. Guillaume Garrigue, vous suivez le Tour de France pour Europe 1. Et on peut dire que les choses sérieuses commencent aujourd'hui, Guillaume.
Oui, parfaitement, Raphaël. C'est de la haute montagne au programme avec trois difficultés au menu de cette 10e étape. Tout d'abord, un apéritif, 80 km de léger faux plat avec la côte de Corlier et surtout, dans à peu près une heure, l'ascension du Grand Colombier, le premier col classé hors catégorie dans ce Tour de France. 18 km de montée avec des passages à 12%. Certains coureurs n'hésitent pas à le présenter comme l'ascension la plus difficile en France. Un terrain idéal pour les favoris du Tour. Bradley Wiggins va devoir défendre son maillot jaune. Ses rivaux, l'Australien Cadel Evans, deuxième au classement général, l'Italien Nibali, qui est un excellent grimpeur, devrait en profiter pour lancer des offensives et mettre en difficulté la Sky, la meilleure équipe du peloton. Cette étape est partie il y a à peu près 40 minutes et déjà deux coureurs en tête. Il s'agit du Slovaque Chagan et de l'Ukrainien Grivko. L'arrivée prévue dans 156 km ici à Bellegarde-sur-Valserine.
Guillaume Garrigue en direct de la route du Tour. La météo des plages et ce n'est pas très gai, Valérie Darmon.
Eh bien Raphaël, c'est une journée pluvieuse et fraîche qui se confirme sur les plages bretonnes avec une eau à 16 degrés dans la rade de Brest, 17 dans le Finistère Sud et 19 en Vendée. Une température de l'air similaire, 19 sur la plage. Le soleil fait parfois de belles apparitions sur les côtes de la Manche, mais n'a aucune chance de réchauffer l'atmosphère, ni la mer d'ailleurs. L'eau est à 14 sur la côte d'Opale, d'Albâtre, ainsi que dans le Calvados, 15 dans le Pas-de-Calais et le Cotentin. Sur les côtes atlantiques, le ciel est variable, un petit peu capricieux et il fait frais. Il fait 19 à Royan sur le sable et dans l'eau. La mer est à 20 en Gironde, dans les Landes et au Pays Basque. Température extérieure aux environs de 22 degrés. Enfin, journée chaude et ensoleillée toujours en Méditerranée, mais attention quand même aux rafales de vent sur les côtes varoises. Sinon, la mer est à 25 dans les Alpes-Maritimes, température extérieure 29. Dans le Var, 24 dans l'eau et 29 sur le sable. Et dans le Gard et les Bouches-du-Rhône, 23 en mer et 26 sur le sable. De quoi rêver.
Merci Valérie Darmon. C'est la fin de ce journal. Très bon après-midi à tous à l'écoute d'Europe 1.
Merci Raphaël. Dans un instant, Franck Ferrand.
Attention, vous avez jusqu'au 26 août pour vous faire plein d'amis.
Johan, je crois que je suis amoureuse de toi.
Super, pour fêter ça, on va manger une paella chez Flunch.
Mais j'aime aussi Kevin, Fred, Nico et Walter.
Super, ils aiment les crevettes et le poulet.
Ouais.
Eh ben alors dis-leur de venir.
Et Benjamin, mon ex, il peut venir aussi.
J'allais te le proposer.
Mais il connaît personne.
Eh bien qu'il ramène des amis.
Oh ouais.
La paella de Flunch, c'est toujours mieux à plusieurs. Et c'est à volonté pour 7,95€ tous les midis et soirs.
Europe 1 vous présente « Une larme m'a sauvé », une histoire vraie qui a déjà bouleversé 100 000 lecteurs.
Angèle est hospitalisée dans le coma. Les médecins pensent qu'elle est perdue. Pourtant, elle entend tout, sans pouvoir bouger, enfermée dans son propre corps.
« Une larme m'a sauvé », une incroyable leçon de vie et de courage.
Aux éditions Les Arènes.
Mais Patrick, qui veut ?
Écoute, j'ai un plan pour gagner cash.
Sérieux ?
Oui, jusqu'à 25% de remise sur les menuiseries Triba. 15% sur les fenêtres, 20% si tu ajoutes des volets ou une porte, 25% si tu prends les trois.
Plus je rénove, plus j'y gagne. Bingo !
Mais non, pas bingo ! Triba Cash, du 2 au 13 juillet.
Triba, fenêtres, portes, volets, en PVC, bois, alu.
Mais Patriba, qui veut ?
Découvrez les conditions détaillées et les 250 espaces conseils Triba sur triba.com.
Avec Peugeot, c'est le moment de profiter d'offres ensoleillées.
En voyage, en vacances, en Alsace, en famille, en Espagne, en couple, en Normandie, en célibataire, jusqu'au 31 août, partez où vous voulez, comme vous voulez, avec qui vous voulez, mais toujours en Peugeot. Pendant l'été Peugeot, profitez d'une reprise Argus plus 1 500 € pour l'achat de la nouvelle Peugeot 208.
Offre réservée aux particuliers sous conditions de reprise dans le réseau Peugeot participant jusqu'au 31 août. Conditions et véhicules disponibles sur peugeotwebstore.com.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et cette semaine, ce sont des histoires d'Amérique que nous vous proposons sur Europe 1 dans les meilleurs moments d'au cœur de l'histoire. Cet après-midi, Franck Ferrand nous fait revivre Pearl Harbor.
Bonjour à tous. En cette fin d'année 1941, l'amiral japonais Yamamoto a fait converger sur la rade de Pearl Harbor un ensemble de 423 avions, 6 porte-avions et 27 sous-marins en vue d'une attaque préventive de grande ampleur contre la flotte des États-Unis. Le dimanche 7 décembre, à 7h40 du matin, le mot d'ordre est lancé « Torah, 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 ce qui veut dire en japonais tigre, tigre, tigre. La cible ce matin-là, ce sont 90 navires de guerre américains surpris par l'attaque japonaise. 8 cuirassés, 3 croiseurs, 3 destroyers, 4 navires auxiliaires seront détruits, ainsi que 168 avions. Surtout, le raid japonais sur Pearl Harbor va faire 2403 victimes américaines, un véritable carnage dont l'impact sur l'époque et sur la guerre peut être rapproché de celui du 11 septembre 2001 sur notre époque.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Pearl Harbor, il y a 70 ans, c'était encore une sorte de petit paradis surarmé pour les soldats américains concentrés non loin d'Honolulu, dans cette rade peu profonde d'Hawaï, qui est un état américain, ne l'oublions pas, une rade qui est occupée en son centre par la petite île de Ford. Dans ce paysage luxuriant, il faut imaginer les plages, les palmiers et les fleurs exotiques, un univers de cartes postales. Dans ce paysage s'entassaient tout de même sur les quais et les môles de Pearl Harbor 96 navires de la flotte américaine du Pacifique. Il y a là 8 cuirassés parmi les plus grands de cette flotte américaine, le Maryland, le West Virginia, le Tennessee, le California, l'Arizona, le Pennsylvania, le Nevada, l'Oklahoma, tous ces énormes navires qui jaugent entre 29 et 30 et 33 000 tonnes, donc de très très grands navires. Et puis le long des quais, proue à poupe, parfois côte à côte, vous avez tous les croiseurs, tous les torpilleurs, une concentration formidable, une armada historique mais tranquille. C'est encore un refuge insouciant de la flotte du Pacifique que nous abordons là à Pearl Harbor. Le dimanche 7 décembre 1941, ce refuge va faire l'objet, vous le savez, donc d'une attaque groupée. Ce matin-là, 353 avions japonais qui ont été acheminés par porte-avions vont littéralement fondre sur cet objectif. Le but des Japonais, il est tout simple, il se résume à un mot, c'est l'anéantissement. Cela fait, il faut le dire, et on y reviendra tout à l'heure, cela fait des mois que les relations entre les États-Unis et le Japon, relations déjà rendues extrêmement difficiles du fait des alliances respectives dans la guerre, que ces relations ont pris le tour d'une guerre larvée. À l'été, après l'occupation de l'Indochine par les troupes nippones, les Américains ont gelé les avoirs japonais, des négociations très tendues ont commencé, plus exactement se sont poursuivies, elles avaient été lancées dès le printemps, et le 26 novembre, les États-Unis ont adressé au Japon une note extrêmement exigeante, qui peut passer pour une provocation, c'est une sorte d'ultimatum, si vous voulez, c'est considéré par l'ensemble des observateurs de l'époque comme un grand pas vers la guerre. Or, au moment où les Japonais reçoivent cette note, un peu comme un gant jeté en plein visage, ils ont déjà donné l'ordre à leur armada de quitter les îles Kuriles, direction Pearl Harbor. Ce qui du reste est très étonnant, c'est qu'en dépit de cette note très dure du 26 novembre, les Japonais n'aient pas jugé bon de rompre les négociations. Qu'est-ce qu'ils cherchaient, les Japonais, dans cette affaire? Est-ce que leur but était de gagner du temps? Nous allons revenir, en compagnie de mon invité, sur l'espèce de compte à rebours qui, pendant tout le début du mois de décembre 1941, nous rapproche de l'inéluctable. L'inéluctable, vous le savez, se produit donc ce dimanche 7 décembre à 7h40 du matin. C'est à ce moment-là que commence le blitz, c'est à ce moment-là que se déchaîne le feu du ciel. Ce sont des attaques extrêmement dures que va devoir essuyer la flotte américaine à Pearl Harbor. Je ne vais peut-être pas entrer dans tous les détails, mais dites-vous quand même qu'une première vague de 49 bombardiers qui portent chacun une bombe de 800 kilos anti-blindage fond sur la rade, et puis 40 bombardiers lance-torpilles, 51 bombardiers en piqué munis de bombes de 250 kilos, une escadrille de 43 chasseurs zéro qui assure eux la protection des bombardiers. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce déluge de feu et de fer, que cet enfer va prendre place alors vraiment comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, dans ce climat assez doux par ailleurs de Pearl Harbor. Vous allez avoir cet extraordinaire déchaînement dans une atmosphère avec un ciel bleu, quelques petits nuages, et puis cette radio américaine qui diffuse constamment des airs tranquilles du Pacifique. Il y a une sorte de paradoxe terrible dans cette scène qui va saisir le monde entier. On peut parler de stupeur planétaire devant cet événement que Churchill lui-même qualifiera d'immense événement mondial, si surprenant qu'il coupait le souffle même à ceux qui se trouvaient au cœur des affaires.
Swogan sur Europe 1, extrait de la bande originale du film L'Empire du Soleil de Steven Spielberg. Restez avec nous, Franck Ferrand nous parle aujourd'hui de Pearl Harbor.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec un récit qui nous plonge aujourd'hui sur Europe 1, au cœur de l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, Franck.
La grande question qui se pose à propos de Pearl Harbor, vous le savez, Julia, c'est évidemment la question de l'information des plus hautes autorités américaines. Et on n'a aucun doute sur un point, c'est que les hauts responsables du Pentagone et à la Maison-Blanche, bien entendu, disposaient d'informations très claires quant à une attaque japonaise imminente contre Pearl Harbor. Si ces informations avaient été transmises, la flotte avait été transmise sur place, là-bas. La flotte du Pacifique aurait pris ses dispositions, on aurait probablement dispersé un certain nombre de navires au large, on aurait mis les avions en état de vol, ce qui aurait tout changé. Et évidemment, les Japonais qui avaient sur place des informateurs auraient été avertis de ce qui se passait, et peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils auraient ajourné ou modifié leur attaque. Bref, la catastrophe de grande ampleur qu'a été ce raid sur Pearl Harbor aurait pu être évitée. Ce qui est certain, c'est que, bien qu'informé, Washington n'a pas prévenu Pearl Harbor. Et dans ces conditions, on est devant une alternative. Soit il y a eu négligence, mais alors c'est une négligence à tous les échelons, négligence de tous les services concernés, ce qui paraît tout de même assez dur à admettre. Soit on a choisi délibérément de ne pas transmettre l'information. La raison de ce choix, ce serait la nécessité de choquer l'opinion américaine pour l'amener à abandonner cet isolationnisme tellement traditionnel aux États-Unis et à accepter l'idée d'une entrée en guerre des États-Unis. Toutes les personnes influentes présentes à Washington à l'automne 41 ont témoigné à l'infini de l'embarras du président américain face à la tiédeur de l'opinion américaine, mais aussi et surtout face à la tiédeur du Congrès des États-Unis. L'éventualité d'une guerre, qui par ailleurs paraissait devenue inévitable, cette éventualité n'était pas du tout acceptée politiquement. On peut donc concevoir qu'à la Maison-Blanche, la catastrophe de Pearl Harbor ait pu apparaître comme une aubaine. Dans le mémorial de Roosevelt, qui a été rédigé d'après les papiers du principal conseiller diplomatique du président, on peut lire cette remarque. Les Japonais n'avaient qu'un seul moyen de tirer Roosevelt d'embarras, et c'est précisément ce qu'ils firent d'un seul coup, d'une manière si provocante, si insultante, si exaspérante, que l'opinion américaine, divisée et troublée, devint en un instant unanime et sûre de son bon droit. En 1955, le contre-amiral Theobald, qui avait subi sur place l'attaque japonaise, s'est rendu mondialement célèbre en publiant un ouvrage à scandale, « Le secret de Pearl Harbor », dans lequel il dénonçait ce qu'il considérait comme un véritable montage politique. Le brûlot rappelle un certain nombre de faits peu contestables. C'est vrai que dès l'été 41, les Américains décodaient les messages japonais grâce à des appareils qu'on avait appelés les Purple Machines, les machines pourpres. Ils étaient donc au courant des préparatifs. Et du reste, le 6 décembre, la veille de l'attaque, ils en connaissaient l'heure précise. Or, le quartier général de l'US Navy sur place, à Pearl Harbor, n'a pas été avisé de ces informations. Pire encore, un ordre de Roosevelt en personne, à la fin de l'été 41, avait interdit que les messages décryptés soient transmis au commandant américain de la flotte du Pacifique. Le fait demeure incompréhensible, écrit Theobald, à moins d'admettre que le président Roosevelt ait voulu que Pearl Harbor fût attaqué. L'hypothèse que formulait le contre-amiral Théobald dans ce livre est très audacieuse. Selon lui, le président Roosevelt et son état-major auraient donc volontairement créé une concentration vulnérable dans les îles Hawaï afin de servir d'appât aux Japonais, afin, si j'ose dire, de les pousser au crime. Nous allons voir dans un instant ce qu'il faut penser d'une hypothèse aussi audacieuse.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et jusqu'à 14h, Franck nous parle aujourd'hui de l'attaque japonaise contre Pearl Harbor. C'était le 7 décembre 1941.
Alors, on peut dire que 50 ans après, la vision hyper machiavélique du contre-amiral Théobald ne semble pas tenable. Le président américain ne pouvait pas manœuvrer les Japonais comme si ça avait été autant de pions sur un échiquier. Il n'avait aucun moyen de maîtriser les conditions d'une attaque telle que celle qui s'est produite. Et surtout, et c'est là qu'il est très important de se replonger dans le contexte, en 1941, on peut dire qu'une attaque aéronavale de cette ampleur, à cette distance des bases, n'avait jamais existé dans l'histoire. C'est du reste cette extrême nouveauté qui a créé la surprise et le choc. Ce que pouvait néanmoins prévoir le président des États-Unis, c'est qu'une telle puissance de feu ait pu passer inaperçue. Vous imaginez comment penser que tous ces avions japonais allaient échapper au contrôle des Américains qui, par ailleurs, avaient installé un système de surveillance ultra performant dans toute la région. Alors, sans entrer dans tous les détails, il paraît hautement improbable que Washington ait froidement planifié la destruction de ses propres forces à Hawaï. Cette accusation extrême de Théobald et d'un certain nombre d'autres contre Roosevelt ne paraît pas tenir. Mais, si le président peut être mis hors de cause à ce stade, il semble beaucoup plus difficile de le laver d'une autre accusation plus subtile. Et si Roosevelt, informé de ce qui se préparait, et nous avons vu que ces informations sont-elles incontestables, et si Roosevelt avait sciemment laissé les choses suivre leur cours, et si, sans être allé jusqu'à tendre un piège aux Japonais, les hauts responsables de Washington avaient sauté sur l'occasion qui leur était offerte de créer un électrochoc sur l'opinion et sur la classe politique américaine afin de modifier le cours de la guerre. Alors voilà qui semble déjà plus possible. Je me suis rappelé en préparant cette émission une très belle émission télévisée d'Alain Decaux sur le sujet. C'était il y a une bonne trentaine d'années et voici ce que disait Alain Decaux. Il disait « Ceux qui pensent que Roosevelt a sciemment négligé d'avertir les forces du Pacifique citent un texte d'un des principaux collaborateurs de Roosevelt qui s'appelait Stimson. On trouve dans le journal de celui-ci un passage assez extraordinaire, nous dit Alain Decaux. Alors je cite le passage en question. Le président observa, c'est Stimson qui écrit, observa que les Japonais étaient réputés pour leur manière d'attaquer sans avertissement préalable et que nous pouvions être assaillis le lundi suivant, par exemple. Le lundi suivant, c'est le 8 décembre en l'occurrence. Un problème nous inquiète à fort. Quand vous savez que votre ennemi va frapper, il n'est pas sage ordinairement d'attendre qu'il bondisse sur vous. Cependant, en dépit du risque encouru, en laissant les Japonais tirer le premier coup de canon, nous comprîmes que pour obtenir l'appui total du peuple américain, il était désirable de les laisser faire, pour que personne ne pût nourrir le moindre doute sur ce qu'étaient les agresseurs. Il s'agissait de savoir comment nous pouvions amener les Japonais à une situation où ils tireraient le premier coup de canon sans nous exposer à un trop grave danger. Ce n'était pas facile. » Voilà donc ce qu'écrit Stimson dans son journal. Vous avouerez que c'est assez stupéfiant. Alors, conclut toujours Alain Decaux, ce n'était pas facile, mais est-ce que pour autant cela a été fait? Ce qui est certain, c'est que tout s'est déroulé comme si ça avait été fait. Mais ça ne prouve en aucune manière que cela a bien été fait. Vous voyez toute la subtilité, toute cette batmologie, si je puis dire, de la question qui se pose à propos de Pearl Harbor. Alors à mes côtés, dans ce studio, se trouve Marc Ferraud, que n'ont pas oublié notamment les fidèles de l'émission Histoire Parallèle, émission culte d'Arte. À propos de la responsabilité de Roosevelt, Marc Ferraud défend, lui, une thèse, vous allez voir, très subtile, très nuancée et qui, entre nous, me paraît très convaincante. Je vous propose de découvrir cette thèse dans un très court instant.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Té Tennessee sur Europe 1, extrait de la bande originale du film Pearl Harbor, Franck.
Bonjour Marc Ferraud.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être des nôtres. Je rappelle évidemment que vous êtes le directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, une bonne maison que je connais pas mal, que vous êtes également membre du comité de direction de la très prestigieuse revue des Annales. Vous êtes un spécialiste de cette époque et vous avez cet avantage, me semble-t-il, par rapport à un certain nombre de vos confrères, de ne pas forcément enfourcher les grands chevaux habituels. Vous essayez souvent d'analyser les choses en dehors des vérités officielles. Alors, sur cette question de Pearl Harbor, c'est quand même très intéressant de savoir ce qu'il en est, déjà, du degré d'information des autorités américaines. Est-ce qu'on peut admettre, avant de parler des dysfonctionnements, est-ce qu'on peut admettre qu'un certain nombre de très hauts responsables savaient ce qui allait se passer ?
On peut dire qu'ils pouvaient le savoir.
Ils avaient les moyens de le savoir.
Oui, puisque plusieurs indices avaient laissé entendre qu'une attaque pourrait avoir lieu. D'abord, une information dont personne n'a tenu compte. C'était les actualités Paramount de novembre.
Dès le 13 novembre.
Le 13 novembre, qui montrait qu'une attaque du Japon pourrait se produire sur Pearl Harbor. Alors, pourquoi on n'y a pas fait attention ? Ben parce que ces messieurs du département d'État n'ont jamais considéré qu'à l'époque, les actualités fussent quelque chose de fiable. C'était des hommes de cabinet, c'était des hommes qui ne croyaient pas du tout aux informations qui ne venaient pas de leur propre savoir. Donc, ils n'ont même pas su que ce sujet existait, Edin. Ensuite, il y a eu des informateurs, notamment un Serbe qui s'appelait Popov, qui a su par Berlin et par Tokyo qu'il y aurait cette attaque. Il l'a su et il l'a dit à ce qui n'était pas le CIA encore, mais le FBI. Mais le chef du FBI n'y a pas cru. Il n'a pas cru pour des tas de raisons. Alors la première raison est, comment dirais-je, grotesque. C'est que l'informateur avait des mœurs ambiguës, dirions-nous, et qu'il lui a dit, il a répété, on ne peut pas croire aux informations d'un type qui tient un bordel. Alors c'est quand même assez curieux parce que au même moment, Staline n'avait pas cru aux informations de qui vous savez, qui lui annonçait de Tokyo que l'Allemagne attaquerait la Russie en juin, c'est-à-dire 6 mois plus tôt. Et pour la même raison, c'est que l'homme en question était un peu ambigu lui aussi par ses mœurs.
Il faut le nommer, oui.
Oui, son nom nous est connu, comment s'appelait-il donc, que je m'en souvienne.
On va le retrouver.
Oui, je vais le retrouver, ça va revenir dans quelques secondes. Cet homme avait la spécialité d'être l'amant des principaux personnages des ambassades à Tokyo, et par la femme de l'ambassadeur d'Allemagne, il a su le secret des secrets. Donc, Staline n'a pas voulu le croire pour cette raison, et pour une autre raison, c'est que c'était un ancien trotskiste. Alors, pour un stalinien, la parole d'un trotskiste ne peut que ne pas être fiable. Donc, nous avons d'abord la même bêtise d'origine. Mais ça, c'est rien. Le plus important, c'est que Roosevelt et les Américains ne pouvaient pas imaginer une attaque sur Hawaï.
Pour eux, vous pensez que c'était impensable?
C'était impensable.
Simplement.
D'abord, à cause de l'arrogance d'une grande puissance qui ne peut pas imaginer qu'un État, malgré tout secondaire, pas à sa hauteur, comme l'était le Japon, puisse oser attaquer le territoire des États-Unis. Ils pensaient qu'ils attaqueraient les Philippines ou Singapour. Or, s'ils attaquaient les Philippines ou Singapour, ce n'était pas une cause de guerre. Roosevelt avait dit lui-même. Comme pour les tenter d'attaquer plutôt Philippines.
Comme pour les pousser à attaquer un peu plus loin, en
mais
fait.
Mais ailleurs.
Ou ailleurs.
Et sans grandes conséquences, peut-être.
On va voir quand même ce qu'il faut penser de ce que nous disent les témoins dans l'entourage immédiat de Roosevelt sur l'attente, parce qu'il y avait une véritable attente de quelque chose, d'un événement à Washington. Nous nous retrouvons dans un instant, Marc Ferraud.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité aujourd'hui sur Europe 1, c'est l'historien Marc Ferraud.
Marc Ferraud qui nous disait donc qu'en fait, ce serait plutôt une sorte non seulement de négligence, mais d'incompétence à plusieurs niveaux qui serait à l'origine et d'incrédulité de la situation elle-même qui serait à l'origine de la non-réaction des Américains à tout ce qui se tramait concernant Pearl Harbor.
Oui, mais alors tout ce que vous avez dit et qui sont des supputations.
Oui, bien sûr, oui.
Ne disent pas encore, on n'a pas encore dit l'essentiel. C'est-à-dire que Roosevelt, pour lui, l'ennemi principal, c'était l'Allemagne. Ce n'était pas le Japon.
Et si il y a une vision très côte est, finalement, voilà. Roosevelt. Hein, pour lui, la guerre se joue en Europe et c'est Hitler qu'il faut battre plus que le Japon. Enfin, avant le Japon, en fait. Hein, c'est plus important.
Oui, parce que si c'est la guerre avec l'Allemagne, l'Allemagne sera à se battre sur deux fronts. Le front ouest et le front russe.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue de Pearl Harbor, l'Allemagne va s'empresser de déclarer la guerre aux États-Unis. C'est ce que voulait finalement le président Roosevelt.
Oui, mais ça c'est un autre problème. Il ne faut pas les mélanger. Si Hitler déclare la guerre aux États-Unis juste après Pearl Harbor, c'est parce qu'à ce moment-là, il cale devant Moscou, il se rend compte, et ça c'est établi maintenant, que la guerre de Russie ne sera pas celle qu'il imaginait. Et pour faire passer la mauvaise nouvelle, d'une certaine façon, et pour pas que l'Allemagne se voit déclarer la guerre par les États-Unis, ce qu'il craint, et ce qui affaiblirait le moral des Allemands, Hitler veut prendre les devants et déclarer la guerre pour montrer que, décidément, c'est nous qui menons en quelque sorte la guerre à notre volonté, selon notre rythme, à nous, et il ne faut pas laisser les Américains nous déclarer la guerre. Or, Roosevelt ne pouvait pas déclarer la guerre si le territoire américain n'avait pas été attaqué. Il l'était par les Japonais, mais pas par les Allemands.
Eh oui.
C'est ça la clé du problème. Et Roosevelt, on peut croire qu'il a fait exprès pour le Japon, parce que pour que l'Allemagne l'attaque, il avait utilisé toutes sortes de ruses. Roosevelt est un des hommes les plus rusés de l'histoire. Il avait trouvé 1000 manières d'agresser en sous-main l'Allemagne pour qu'elle déclare la guerre et qu'ainsi il puisse entrer en guerre sans apparaître responsable d'un conflit ayant lui-même promis que jamais il déclarerait la guerre.
Donc s'il l'avait fait avec l'Allemagne, pourquoi pas avec le Japon, finalement?
Oui, mais le Japon n'était pas pour lui le danger principal.
C'était pas un objectif, c'est ce que vous nous dites.
N'est-ce pas?
Alors, Stéphane Loisel nous dit par Facebook qu'en fait, il faut noter qu'aucun porte-avions n'était quand même au mouillage à Pearl Harbor. C'est un fait, en tout cas. On parlera plus, nous disent-ils cependant, d'incrédulité généralisée, c'est ce que vous nous dites, ou carrément d'incompétence à tous les niveaux. Alors, on revient sur notre trou de mémoire de tout à l'heure, Marc Ferraud. Alban nous dit, je crois que la personne que vous cherchez est Richard Sorge, et du reste un autre message qui était arrivé avant me disait, allez-vous évoquer le fait que le président Roosevelt était au courant de l'attaque grâce à l'espion soviétique Sorge et qu'il a laissé faire afin de laisser entrer les États-Unis en guerre? Vous voyez que cette idée-là est quand même très ancrée. Hein,
oui, mais enfin Sorge n'est pas dans le coup, si j'ose dire, pour cette agression-là. Par contre, il était pour celle de l'Allemagne sur la Russie.
Et Marie-France nous demande si nous allons parler de Churchill, qui plus encore que Roosevelt savait à l'avance l'ampleur de l'attaque. Je crois qu'au contraire, Churchill a été très surpris quand il était en train de dîner avec l'ambassadeur des États-Unis ce dimanche soir, quand il apprend tout simplement par la radio qu'il y a eu cette attaque japonaise contre la flotte américaine. Il a l'air d'être le premier surpris.
Il est surpris, mais il s'attendait quand même à une attaque, pour autant que, ne l'oubliez pas, la France avait été vaincue, donc il y avait tout un champ qui s'ouvrait aux Japonais du côté de l'Indochine ou ailleurs. Les Pays-Bas également, donc l'Indonésie. Et du même coup, il paraissait évident que le Japon allait s'engouffrer dans cette brèche, la marine y poussant contre l'armée qui voulait se battre contre les Russes plutôt, vous voyez. Et de ce fait, on pensait qu'il y aurait une attaque japonaise, mais qui ne mettrait pas en cause les États-Unis, qui joueraient le rôle un peu de gardien, d'arbitre, et qui pensait bien qu'il l'avait dit, les Philippines n'étaient pas un cas de guerre, Singapour encore moins, puisque c'était anglais, les Indes néerlandaises encore moins. Donc, les Américains, d'une certaine façon, attendaient les événements. Et ils s'attendaient certes à une attaque, mais pas directement contre eux. Cela dit, il faut ajouter encore un détail, c'est que bien des amiraux japonais pensaient qu'une fois Pearl Harbor attaqué, ils débarqueraient en Californie. Les Japonais pensaient aller plus loin que ce que voulait l'empereur. Et ça, c'est aussi un fait qu'il faut noter, parce que ça a été une grande désillusion qui a frappé le moral des Japonais, qui ont bien vu que certes, ils avaient accompli un exploit, mais qui n'avait pas de suite.
Oui, c'était un exploit qui finalement reste, toute proportion gardée, relativement contenu.
Délimité.
En fait, délimité.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
L'historien Marc Ferraud est toujours votre invité sur Europe 1 Franck. Il est auteur notamment de « Ils étaient sept hommes en guerre », publié chez Robert Laffont en 2007 et réédité aujourd'hui chez Tempus.
Oui, et dans lesquels un chapitre, enfin tout un début de chapitre est consacré à cette affaire de Pearl Harbor. Et notamment, car vous les pointez très, vous les répertoriez, à tous les dysfonctionnements qui se sont accumulés dans cette affaire. Parce que s'il n'y a pas de cécité programmée de la part des Américains, alors c'est qu'il y a des négligences et des dysfonctionnements même difficile à expliquer, notamment pour ce qui est des décodeurs, tout simplement, puisqu'on savait décoder le code japonais.
Oui, mais il n'y en avait pas à Pearl Harbor.
Mais pourquoi, justement?
Parce que les Américains, encore une fois, ne pouvaient imaginer qu'on se permettrait une attaque sur les États-Unis, sur les Philippines, pourquoi pas. Donc il y avait des décodeurs ailleurs, soit. Il y en avait à Panama, sait-on jamais. Parce que rappelez-vous, déjà en 14-18, on avait craint, les Américains avaient craint un débarquement japonais au Mexique ou par là-bas.
Absolument.
Donc il y avait des décodeurs à Panama, il y avait des décodeurs à San Diego, il y avait des décodeurs à San Francisco, il y en avait aux Philippines, mais il n'y en avait pas à Hawaï. Ça c'est un. Puis alors, deuxième dysfonctionnement, Marshall, qui commandait toutes les forces américaines, n'est-ce pas, ne veut pas utiliser le téléphone de peur que les Japonais l'interceptent. Donc il utilise le télégraphe. Mais le télégraphe est envoyé par ordre d'abord à Panama, encore une fois, ensuite à San Diego, encore une fois, ensuite aux Philippines et à Hawaï en dernier. Si bien que quand le télégraphe qui annonce un grand risque pour Hawaï, à Hawaï, quand il arrive, c'est trop tard, l'attaque a déjà eu lieu. Donc voilà deux types de dysfonctionnements. Mais il y en a eu bien d'autres.
Il y a aussi un dysfonctionnement plus humain, en quelque sorte. C'est dans l'appréhension des hauts responsables militaires, je pense à MacArthur ou d'autres, devant un certain nombre d'informations qui leur arrivent et qu'ils négligent. Alors, peut-être pas volontairement, mais qu'ils
n'y croient pas.
Ils n'y croient pas. C'est donc de l'incrédulité. Hein. C'est bien le terme qu'il faut retenir.
C'est de l'incrédulité. Et puis, alors, sur place, il y a une surprise, n'est-ce pas? Et il y a un document d'actualité qui a été retrouvé par Costel et... Il y a très très longtemps, où on voit très bien que des GI qui sont là, à Hawaï, quand ils voient les bombardements, croient que ce sont non pas de vrais bombardements, mais que ce sont des préparations, des exercices. Et on répète à la radio, ça n'est pas un exercice, ça n'est pas un exercice, ça n'est pas un exercice.
D'ailleurs, les avions qui arrivaient, on pensait qu'ils arrivaient de Californie, pour certains.
On pensait qu'ils arrivaient du Nord. Ben, ouais. Ils arrivaient du Nord, parce que l'astuce avait été de les faire passer près des côtes russes. Et c'est là aussi un vrai problème. C'est qu'il fallait qu'ils passent près des côtes russes, mais pas trop près, parce que le Mikado ne voulait pas de conflit avec la Russie à ce moment-là.
Et puis surtout, il fallait arriver de façon furtive. Comment les Japonais ont-ils pu faire pour que tout ça passe, entre guillemets, inaperçu? Ça, c'est incroyable. Ce sont d'énormes préparatifs, tout de même.
C'était d'énormes préparatifs. Depuis plus d'un mois, ils avaient préparé cette opération, mais c'était très secret. Et puis alors, il y avait aussi des ruses, n'est-ce pas? Ils avaient fait de la contre-information. Par exemple, il y avait un navire qui devait partir de Yokohama vers les États-Unis à cette date-là. Et pour pas qu'il y ait de doute ou de suspicion, ils ont fait partir le navire, comme si de rien n'était.
Et l'opération d'intoxication, là, on va dire.
Une intoxication. Ouais.
Alors, Marc Ferraud, on peut dire que vous venez de casser toutes les belles constructions de complots qui avaient pu être montées depuis les années 50 sur cette affaire de Pearl Harbor. Est-ce que vous admettez au moins que le président Roosevelt trouvait son compte à ce qui s'est passé?
Ah oui, parce que sa première remarque quand il y a eu l'attaque des Japonais, ça a été de dire « ma responsabilité est dégagée ».
C'est ça.
Donc il y avait bien quelque chose. Parce qu'on le soupçonnait précisément d'avoir fait exprès, mais on le soupçonnait pour des mauvaises raisons, parce qu'il faisait exprès de faire que l'Allemagne lui déclare la guerre, ce qui est tout à fait autre chose. Alors là, il y a quand même deux, trois manœuvres assez géniales de Roosevelt, n'est-ce pas? Alors la première, c'était d'inventer cette histoire « cash and carry », c'est-à-dire de livrer aux Anglais ou à d'autres cash and carry, c'est-à-dire payer cash et emporter. Si bien que les Allemands ne pouvaient pas venir pour emporter, puisqu'il fallait emporter soi-même. Donc ça, c'était une manière de ne pas trahir les actes de la Constitution qui interdisent d'envoyer des armes à un pays en guerre. Alors, ils ne les envoyaient pas, il fallait venir les chercher, Edin. Ensuite, il y a eu l'idée, n'est-ce pas, autre chose qui était de le prêt-bail. C'est-à-dire qu'on ne donne pas des armes, on les prête. C'est l'apologue du jardinier qu'a inventé Roosevelt. Quand il y a une maison en feu, on peut prêter l'arrosoir, mais ça ne veut pas dire qu'on le donne. Donc, ils respectaient la Constitution. Donc, toutes ces ruses, n'est-ce pas, laissaient présager d'un coup de Roosevelt, qui en était familier.
Donc, nous ne sommes pas dans la préméditation, mais bien dans la ruse et l'incrédulité. C'est peut-être ce qu'il faut retenir de cette affaire de Pearl Harbor.
C'est le vrai couple. C'est le vrai couple.
C'est ça. Merci beaucoup, Marc Ferraud, de nous avoir éclairé sur cette affaire. Vous êtes l'auteur, alors, entre autres, très nombreux ouvrages de 1917, Les Hommes de la Révolution. Ce sont des portraits de tous les grands acteurs de cette révolution russe. C'est publié chez Omnibus. Et puis, des entretiens avec vous. Autobiographie intellectuelle avec Gérard Jorlan, qui est paru chez Perrin cette année. Et également Mes histoires parallèles, ça ce sont des entretiens avec Isabelle Vera-Masson et c'est publié chez Carnet Nord également cette année. Merci beaucoup Marc Ferraud.